La voix animale. Une émission de Karine Félix Faure, réalisée par Radiola.
Nous avons tous grandi avec les animaux, souvent à la maison, mais aussi dans les livres, à l'école, pendant nos balades dans la nature et dans notre imagination. Les animaux occupent une place essentielle dans nos vies, non seulement en tant que compagnons fidèles, mais aussi en tant que piliers de l'équilibre écologique. Comme le disait le naturaliste américain Henry Beston, les animaux sont d'autres peuples, pris avec nous dans le réseau de la vie. Et dans cette première émission, j'aimerais commencer avec un extrait tiré de l'introduction du livre de Ed Young, intitulé « Un monde immense », pour illustrer que chacun, homme comme animal, ne capte qu'une fraction de l'immensité du monde. Imaginez un éléphant dans une pièce, un mammifère imposant. Imaginez une pièce assez vaste pour l'accueillir, comme par exemple le gymnase d'une école. Imaginez également une souris, un rouge-gorge, un hibou, une chauve-souris, un serpent à sonnette, une araignée, une moustique et un bourdon. Enfin, au milieu de cet espace, ajoutez un être humain au nom de Rebecca. Peu importe pourquoi tous ces animaux sont présents dans ce gymnase, considérez plutôt la façon dont Rebecca et toute cette ménagerie se perçoivent les uns les autres. L'éléphant émet un profond barrissement, tonitruant, trop grave pour être entendu par la souris ou la chauve-souris, mais il est perçu par l'abdomen sensible du serpent à sonnette. Rebecca, qui ne perçoit ni les ultrasons des couinements de la souris, ni les infrasons du barrissement de l'éléphant, entend bien le rouge-gorge qui chante à des fréquences plus adaptées à ses oreilles. Mais son audition n'est pas assez fine pour saisir toutes les nuances que l'oiseau inscrit dans sa mélodie. Le plastron du rouge-gorge paraît rouge pour Rebecca, mais pas pour l'éléphant. Pour lui, la perception visuelle est réduite aux nuances de bleu et de jaune. Le bourdon ne perçoit pas le rouge non plus, mais il est vraiment sensible au rayonnement ultraviolet au centre du tournesol, également perçu par le rouge-gorge. Cette cible est invisible pour Rebecca. Elle pense que la fleur est d'une seule couleur, le jaune. Ses yeux sont pourtant les plus perçants parmi tous les animaux de la pièce. Contrairement à l'éléphant ou au bourdon, elle est capable de repérer la petite araignée au milieu de sa toile. Mais elle ne voit plus grand-chose une fois les lumières éteintes. Le disque facial du hibou, composé de plumes rigides, lui permet de diriger des sons vers ses oreilles très sensibles, dont l'une est légèrement plus haute que l'autre. Grâce à cette asymétrie, le hibou peut localiser précisément la source sonore des trottinements de la souris dans le plan vertical et dans le plan horizontal. Le serpent à sonnette, grâce à ses deux fossettes thermosensibles situées entre les yeux et les narines, perçoit le rayonnement de la souris tel un signal lumineux. L'araignée entend ou voit à peine les autres participants. Son univers est presque entièrement défini par les vibrations se propageant sur sa toile qui agit comme une extension. La chauve-souris a un sonar si précis qui lui permet non seulement de détecter l'araignée dans l'obscurité, mais aussi de la localiser avec assez de précision pour venir la cueillir dans sa toile. Même dans ce gymnase clos, le rouge-gorge perçoit le champ magnétique de la Terre. Guidé par sa boussole interne, il s'envole très exactement vers le sud. Ces sept créatures partagent le même espace physique, mais l'expérimentent de manière extrêmement différente. Il en va de même pour les milliards d'autres espèces animales sur la planète. La Terre foisonne d'images et de textures, de sons et de vibrations, d'odeurs et de goûts, de champs électriques et magnétiques. Mais chaque animal puise uniquement une petite fraction de la richesse de la réalité. Chaque animal vit dans un monde clos, ne percevant depuis sa bulle sensorielle qu'une minuscule portion d'un monde immense. Et voici ma question à vous, auditeurs et auditrices. Est-ce que notre environnement à nous, humains, est le seul qui importe?
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
Et dans ce monde immense, quelle place occupent les animaux de compagnie? En 2024, la France compte, j'arrondis vers le haut, 17 millions de chats, 10 millions de chiens, 4 millions d'oiseaux et 4 millions de petits mammifères, 9 millions d'oiseaux de basse-cour, 2,5 millions d'animaux de terrarium et 30 millions de poissons. Et le pourcentage mondial d'animaux de compagnie est de 33% de chiens, 23% de chats, 12% de poissons, 6% oiseaux et 6% autres. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur les propriétaires d'animaux de compagnie, et j'en cite quelques-uns. Certaines études confirment l'idée que les chiens et leurs maîtres se ressemblent. Une étude a démontré que les propriétaires de lapins sont les plus introvertis des propriétaires d'animaux de compagnie. Les personnes qui ont des hamsters ont, en proportion, plus de chances d'avoir un diplôme élevé. Les propriétaires de chiens ont davantage tendance à voir leur animal de compagnie comme un membre de la famille. Les propriétaires de chats sont statistiquement plus ouverts aux nouvelles expériences que les propriétaires de chiens. Les propriétaires de chevaux sont plus souvent mariés que les autres propriétaires d'animaux de compagnie. Là où il y a le plus de propriétaires de chats, c'est en Russie, 57%, puis en France, 41%, et les États-Unis, 39%. Là où il y a le moins de propriétaires de chats, c'est en Corée du Sud, 6%, Hong Kong, 10%, et le Japon, 14%. En fin de compte, plus de la moitié de la population mondiale possède un ou plusieurs animaux de compagnie.
If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems. Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed. A disco ball is just hanging by a thread.
À présent, je vais vous raconter une histoire vraie que j'ai toujours trouvée touchante sur un chien devenu célèbre. Les chiens sont connus pour leur dévouement et cette histoire en est bien l'illustration. Dans les années 1920, à Tokyo, un professeur d'université adopta un chien de la race Akita Inu qu'il nomma Hachiko. Très vite, une routine se forma entre eux. Chaque matin, Hachiko accompagnait son gardien jusqu'à la gare où le professeur prenait son train pour l'université. Puis, chaque après-midi, Hachiko revenait à la gare pour l'attendre et l'accueillir à son retour. Leur lien était très fort et la ponctualité de Hachiko impressionnait même les voyageurs réguliers. Un jour, en mai 1925, le professeur décéda subitement d'une hémorragie cérébrale alors qu'il était au travail. Ce jour-là, Hachiko attendit son retour à la gare comme d'habitude. Mais le professeur ne rentra jamais. Pourtant, Hachiko continua de venir à la gare chaque jour, à l'heure habituelle, pour attendre son maître. Jour après jour, pendant près de 10 ans, Hachiko revint fidèlement à la gare, attendant le retour de celui qu'il ne reverrait jamais. La fidélité sans faille d'Hachiko attira l'attention des passants, des commerçants et des journalistes qui furent touchés par son histoire. Hachiko devint une figure célèbre, un symbole de la loyauté, inspirant de nombreux Japonais et recevant des offrandes de nourriture de la part de ceux qui avaient été témoins de son dévouement. En 1934, une statue de bronze fut érigée en son honneur devant la gare où elle se dresse encore aujourd'hui, comme un hommage à la loyauté d'Hachiko. Hachiko mourut en 1935, 10 ans après la mort de son gardien. Son histoire est restée dans les mémoires et a inspiré des livres, des films et des hommages à travers le monde. Encore aujourd'hui, des milliers de visiteurs viennent voir la statue de Hachiko qui symbolise le lien indestructible entre un chien et son gardien, une histoire de fidélité qui continue de toucher les cœurs partout.
Sous
voici quelques faits sur nos compagnons les chiens. Ils ont un odorat ultra puissant. Le nez du chien est 10 000 à 100 000 fois plus sensible que celui des humains. Ils peuvent même sentir des maladies comme le cancer, la baisse de glycémie ou les infections car ils détectent les composés chimiques produits par le corps. Les chiens sont parmi les rares animaux capables de comprendre les expressions faciales humaines. Ils reconnaissent nos émotions et ajustent leur comportement en fonction. Par exemple, ils savent différencier une expression de colère d'un sourire. Selon les recherches, les chiens possèdent une intelligence comparable à celle d'un enfant de 2 à 3 ans. Ils comprennent entre 150 et 200 mots et peuvent apprendre des gestes, des symboles et des comportements complexes. Ils rêvent comme nous. Les chiens passent par des cycles de sommeil, REM, mouvement oculaire rapide, une phase où le rêve se produit aussi chez les humains. On peut souvent voir leurs pattes bouger ou entendre des gémissements, suggérant qu'ils vivent des aventures dans leur sommeil. Ils sentent le temps qui passe. Les chiens possèdent une notion du temps. Ils peuvent anticiper l'heure des repas ou du retour de leur maître en se basant sur des indices olfactifs. Au fil de la journée, les odeurs s'estompent, ce qui peut leur servir d'indicateur pour estimer le temps écoulé. Les chiens entendent des sons jusqu'à 4 fois plus éloignés que les humains et perçoivent des fréquences aussi hautes que 65 000 Hz contre environ 20 000 Hz pour les humains. Cet ouïe leur permet de détecter des ultrasons inaudibles pour nous. Les chiens ont évolué pour mieux communiquer avec les humains, notamment en développant des muscles autour de leurs yeux. C'est pourquoi ils peuvent lever leurs sourcils et adopter des expressions attendrissantes, que les loups, par exemple, ne peuvent pas faire. Chaque chien a une empreinte nasale unique. Les petits motifs de crête et de bosse sur leurs truffes sont propres à chacun. Et c'est bien pour ça qu'on les aime.
Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien?
Il va me rendre... Et les chats alors? Les chats ont une vision nocturne exceptionnelle. Ils voient jusqu'à 6 fois mieux que les humains dans l'obscurité. Ils possèdent une membrane réfléchissante appelée tapetum lucidum derrière leur rétine qui améliore leur vision nocturne en reflétant la lumière. Ils communiquent avec leur maître, pas entre eux. Les chats miaulent principalement pour communiquer avec les humains et non avec d'autres chats. Dans la nature, les chats adultes ne miaulent pas souvent entre eux, préférant le langage corporel et les odeurs. Pas aussi puissant que les chiens, mais les chats ont quand même un odorat très développé, environ 14 fois plus puissant que celui des humains. Ils possèdent un organe supplémentaire, l'organe de Jacobson, situé sur le toit de leur bouche, qui leur permet de goûter les odeurs, un comportement souvent appelé phlémène. En moyenne, les chats dorment entre 12 et 16 heures par jour. Ce besoin de sommeil est lié à leur nature de prédateur pour économiser de l'énergie entre les périodes d'activité. Contrairement aux humains, les reins des chats sont capables de filtrer le sel de l'eau de mer, leur permettant ainsi de s'hydrater. Cette adaptation est un héritage de leurs ancêtres du désert. ils peuvent sauter jusqu'à 10 fois la longueur de leur corps en un seul bond. Les langues des chats sont recouvertes de papilles filiformes pointues en forme de crochet, qui leur permettent de déchiqueter la viande, mais aussi de se toiletter efficacement. Ils ne perçoivent pas le rouge, mais distinguent bien le bleu, le vert et certaines nuances de jaune. Leur perception des couleurs est limitée comparée aux humains, mais leur vision est bien plus adaptée au mouvement et à la faible lumière. Les glandes odorantes des chats, situées sur leur tête, leurs pattes et autour de leur queue, leur permettent de marquer leur territoire. Lorsqu'un chat frotte sa tête contre un objet ou un humain, il le marque en réalité avec son odeur. Et finalement, les chats ronronnent pour exprimer le contentement, mais aussi pour se calmer dans des situations de stress ou de douleur. Fait intéressant, le ronronnement produit des vibrations de 25 à 150 Hz, une fréquence qui, selon certaines études, favorise la guérison des os et des tissus. Pourquoi les animaux sont importants dans nos vies? C'est une question que je me pose souvent. C'est une question simple peut-être, avec des réponses immédiates, mais en y réfléchissant, c'est plus profond. Ernest Hemingway, un romancier, nouvelliste et journaliste américain, a dit quelque chose de très vrai, je trouve. Et je pense que les animaux, souvent, précisément, joue le rôle que Hemingway décrit dans le suivant. Dans nos moments les plus sombres, nous n'avons pas besoin de réponses ou de conseils. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une connexion, d'une présence discrète, d'un toucher doux. Ces petits gestes servent de point d'ancrage, nous ramenant à la réalité lorsque la vie semble écrasante. S'il vous plaît, n'essayez pas de me réparer ou d'assumer ma douleur. Ne rejetez pas mes luttes et n'essayez pas de chasser mes ombres. Assieds-toi simplement à côté de moi pendant que je navigue dans mes tempêtes intérieures. Sois la présence stable sur laquelle je peux m'appuyer pour trouver mon chemin. C'est à moi de supporter ma douleur, à moi de mener mes batailles. Mais ta présence me rappelle que je ne suis pas seule dans ce vaste monde parfois terrifiant. C'est une affirmation silencieuse que je mérite toujours l'amour, même lorsque je me sens brisée. Alors, dans ces moments où je vacille, où je perds le nord, resteras-tu? Non pas pour me sauver, mais pour être mon compagnon. Tiens-moi la main jusqu'à ce que l'aube revienne, en m'aidant à redécouvrir ma force. Ton soutien silencieux est un cadeau inestimable, un amour qui me rappelle qui je suis, même quand je l'oublie. Et voici que cette émission se termine. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur nos amis les animaux. Merci Marin du Quédic pour la réalisation technique de cette émission. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode.